Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
La littérature allemande, Brice, est parfois étrangement muette sur le passé récent du pays.
Oui, dans un court texte paru en 1999, Luftkrieg und Literatur, guerre aérienne et littérature, pudiquement publié chez Actes Sud sous le titre « De la destruction », Sebald faisait observer que le bombardement des villes allemandes durant la Deuxième Guerre mondiale avait fait l'objet d'un étrange refoulement dans la littérature d'après-guerre. Désireux de reconstruire leurs deux pays sur de toutes nouvelles bases, d'oublier les hontes de leur propre passé, les Allemands ne voulaient pas se souvenir non plus de la destruction militairement injustifiée de plusieurs grandes villes allemandes. 1 million de tonnes de bombes lancées depuis les airs, 600 000 victimes civiles en Allemagne. Mais la Luftwaffe n'avait-elle pas enclenché elle-même ce processus dément en bombardant Varsovie en septembre 1939, Londres, Coventry, Birmingham, Manchester durant le Blitz de septembre 1940 à mai 1941. Lorsqu'il se rend une première fois à Manchester en 1969, Sebald observe que dans certains quartiers de cette ville, il restait encore des immeubles en ruine datant de cette époque. L'aptitude des hommes à oublier ce qu'ils ne veulent pas savoir, écrit-il, à détourner le regard de ce qu'ils ont devant eux, a rarement été mise à l'épreuve comme dans l'Allemagne de cette époque. Le miracle économique de l'après-guerre en République fédérale exigeait le refoulement de toute la période 1933-45, y compris celui des souffrances allemandes. Mais il y a d'autres événements tragiques de cette histoire qui n'étaient pas abordés par la littérature. En particulier, la fuite de plusieurs millions de femmes et d'enfants allemands des territoires de l'Est devant l'avancée d'une armée rouge bien décidée à venger les atrocités commises par les troupes allemandes en URSS. Ces réfugiés constituaient 18% de la population de la République fédérale au début des années 60 et ils pesaient d'un poids politique considérable. C'est Helmut Kohl qui mit un terme définitif aux vieilles revendications allemandes sur la Poméranie, la Silésie, la Prusse orientale qui inquiétaient légitimement les Polonais. Il est à présent possible d'évoquer le sort des réfugiés allemands des territoires de l'Est fuyant l'avancée des soviétiques sans nourrir un vieux filon revanchiste d'extrême droite.
Et c'est ce qu'a fait Brice, l'un des plus grands écrivains allemands de notre temps, Walter Kempowski, disparu en 2007 dans un livre récemment paru en français sous le titre « Schluss ».
Oui, la plus grande partie du roman se déroule dans le manoir quelque peu délabré d'une vieille famille de l'aristocratie allemande. Il y a là la mère, Katharina, obsédée par le vague souvenir d'un flirt adultère, la tante, exilée de sa chère Poméranie, qui gère ce qui reste du domaine et qui régente les domestiques, et puis un garçonnet, Peter, très occupé par son train électrique, son microscope, et puis par les cours que vient lui prodiguer à domicile un vieil enseignant vaguement amoureux de sa mère et qui espère surtout qu'on lui donnera quelque chose de chaud à manger à la cuisine. Il collectionne, ce professeur, les lettres de ses anciens élèves relatant leurs exploits et leurs souffrances sur le front. Après la guerre, il compte, dit-il, publier un recueil de ses textes admirables. Ce petit château semble oublié par les drames de l'histoire. Ces personnages vivent au bord d'un précipice qui va les engloutir, mais ils imaginent pouvoir continuer leur petite vie allemande bien ordonnée. Kempowski raconte au style indirect les pensées et les actions des uns et des autres avec un détachement teinté d'ironie. Jusque-là, vous me direz, on se croirait dans un roman post-romantique d'Edward von Kaiserling, sauf que le père est absent. Il fait la guerre quelque part en Italie, que depuis le lotissement social de l'autre côté de la rue, le responsable local du parti nazi ne cesse de venir inspecter ce qui se trame au manoir. Il suspecte ces aristocrates d'indépendance d'esprit et que surtout sur la route, la file des chariots tirés par des chevaux ne cesse de grossir. Les civils allemands fuient dans l'hiver glacial, croisant de temps à autre des colonnes de blindés qui montent vers le front. Dans la salle de billard, désertée parce que non chauffée, des cousins ont laissé là leur argenterie et d'autres possessions précieuses et ils ont prévenu que rien ne devrait manquer lorsqu'ils reviendront en reprendre possession après la guerre. Tous ces gens vivent dans l'illusion d'un retour à la normalité, à l'inéluctable victoire finale de leur fameuse race supérieure. La vie assoupie du vieux manoir est troublée par le passage de réfugiés de plus en plus envahissants. Chacun semble poursuivre une obsession particulière et avec eux, le chaos de l'histoire se fait de plus en plus proche, de plus en plus insistant. Bientôt, l'énergique vieille tante ordonne au jardinier polonais de préparer la vieille calèche et puis un attelage. Il va falloir rejoindre le flot des réfugiés. On ne pourra pas attendre Katharina. Elle est en prison pour avoir donné refuge une nuit dans sa propre chambre à un juif en fuite. À la fin de l'histoire, le chaos de la guerre aura raison de cette apparence de stabilité. Tout volera en éclats. Seuls les chiens de garde nazis maintiennent l'illusion d'un ordre, tandis que les chariots se feraient un chemin de plus en plus hasardeux sur la Baltique gelée.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, sur l'application Radio France. On vous retrouve demain.